n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Ranondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Et bonjour au public.
Nous sommes en direct du parvis de l'hôtel de ville de Bourg-en-Bresse pour une émission dédiée aux souvenirs de radio. La radio du côté de ceux qui la font, mais aussi de ceux qui l'écoutent. La radio, c'est faire passer des émotions par le son, par la voix. C'est des musiques qui nous font sourire, des cris à l'arrivée d'une étape du Tour de France ou devant un match, des débats animés entre deux opposants politiques. Et du côté de ceux qui tiennent le micro, c'est parfois du stress, de l'imprévu, des moments cocasses en direct. Et on va parler de tout ça aujourd'hui avec nos invités, Audrey.
Et pour cette première partie, on accueille Xavier Breton, député de l'Ain, conseiller régional. Bonjour.
Bonjour.
François Belay, speaker officiel du Tour de France. Bonjour.
Bonsoir, je vais dire. On va dire bonjour parce qu'on est entre le soir et le jour.
On est un peu entre les deux.
Allez, bonjour ou bonsoir.
Alors, vous avez aussi piraté des ondes en participant donc à Radio 2. On en parle dans quelques minutes. Et Mika, d'Énergie Bourg-en-Bresse. Bonjour.
Ah bonjour, bonsoir même.
Et donc, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Radio B, ancienne radio libre, fête ses 40 ans. Elle a toujours été très locale dans le choix des invités, des sujets ou même des interventions. Alors, qu'est-ce qu'une radio de proximité apporte à notre territoire, Xavier Breton ?
Ben, je crois que c'est important que parmi les médias, on a bien sûr la presse écrite quotidienne avec le progrès hebdomadaire avec la Voix de l'Ain, mais c'est aussi important qu'il y ait le son et qu'il y ait la possibilité d'avoir une radio, des radios locales, aux côtés bien sûr des radios nationales, pour avoir cet éclairage sur ce qui se passe dans notre territoire. Quand on est en voiture, on peut brancher pendant quelques minutes, ça permet effectivement de se mettre au courant. C'est aussi quand on prend le temps d'une émission. Je crois que vraiment les radios locales ont toute leur place. Et bien sûr, il y a eu le mouvement des radios libres il y a maintenant une quarantaine d'années. Ce qui est complètement, il faut se rappeler, c'est pas si vieux que ça finalement, où le temps où les radios étaient interdites. Hein, ça a été permis et je crois qu'elles ont pris toute leur place dans nos territoires, et c'est important parce que ça fait partie de la diffusion de l'information, de l'échange, de la meilleure connaissance de la vie locale.
Alors on le rappelle, en 1980, François Mitterrand, le nouveau président de la République, met fin au monopole de l'État sur les ondes. Alors quels souvenirs gardez-vous de cette période de libéralisation des ondes, Xavier Breton ?
Écoutez, moi j'étais étudiant à l'époque à Nancy et je faisais partie d'une radio pirate qui s'appelait Radio Vitamine et on faisait des émissions à l'époque, on nous appelait pour dire bah, c'est aujourd'hui, c'est dans tel grenier, de tel appartement que l'installation radio est faite. Donc j'ai eu quelques mois comme ça à faire des émissions radio pirate. Il y a eu cet épisode des radios libres qui était vraiment la belle époque parce que c'était l'époque de la libéralisation, de la libération vraiment de la parole. Et puis progressivement, ça s'est fait, il y a eu des fusions aussi de radio et on est rentré dans des logiques de passer de radio libre à radio privée d'une certaine manière, où là il y avait des démarches qui étaient un peu plus commerciales et moi à ce moment-là, j'ai arrêté mon expérience radio à ce moment-là.
Mika, un souvenir de cette période?
Moi j'ai commencé à ce moment-là en fait, au moment où il y a eu les fusions. Moi j'ai démarré sur une radio mais du côté de la Charente, une radio catégorie A, associative comme on dit, et où on amenait un petit peu ses disques, ses CD et tout ça, et j'ai démarré vraiment comme ça en fait.
Et François Belay.
Ouh, dinosaure, moi, dinosaure des ondes. Moi, première expérience radio avec des copains, Christian Mocoset, Henri Olivier, en 1977, au mois de mai 1977, Radio Méga, à Bourg-en-Bresse déjà, aux résidences Fleury. Christian Mocoset avait travaillé au podium européen pendant quelques années, il avait ramené du matériel, alors peut-être tombé du camion, j'en sais rien, à prescription de toute façon. Et on a installé un studio temporaire. Au tout début, c'était au boulevard Victor Hugo pendant 3 mois. Et après, on s'est installé aux résidences Fleury, donc vers les Allocs, comme on dit, rue Aristide Briand, 14e étage. Et on a été très vite remarqué par la population qui était avoisinante, parce qu'on brouillait toutes les télés.
Donc on a eu effectivement quelques remarques acerbes de la part de quelques personnes. Puis d'autres ont joué le jeu parce qu'ils nous écoutaient. On était évidemment avec un auditorat très privé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a eu aussi des petits soucis avec la préfecture parce qu'on attaquait le monopole à l'époque. Donc on était des vilains garçons, on s'est fait taper sur les doigts, saisi du matériel, etc. On a eu quelques poursuites qui ne sont pas allées très loin parce que la chance qu'on a eue en 1980, me semble-t-il, ou en 1979, on a fait bénéficier nos ondes au niveau des routiers qui étaient bloqués sur le secteur du champ de foire par la glace, par la neige qui était tombée. On a aidé à ce que ces gens-là puissent s'en aller et retraverser le Mont Blanc, etc. Et donc on s'est rendu utile un petit peu. Alors la préfecture avait dit, écoutez, officiellement, ne dites rien, ne dites pas que, parce qu'on n'a pas le droit de vous dire que, mais on vous dit que ce serait bien que vous nous dépanniez. Donc on les a dépannés et du coup, en les dépannant, on s'est rendu utile. Et en se rendant utile, on n'a plus de plaintes, comme par hasard, tout s'est évanoui dans la nature et donc on n'a jamais été vraiment poursuivi. Mais voilà, c'était le vrai début. Puis après, il y a eu Radio 2, mais ça, c'était un peu plus tard. Ouais.
Et donc, qu'est-ce que vous regardez comme souvenir de vos premiers pas devant un micro, Xavier Breton?
Oh, c'était à l'époque, on était dans une démarche où, en fait, on ne s'intéressait pas assez à ce que souhaitaient les auditeurs. On était dans une démarche plus pour s'exprimer, d'une certaine manière, que dans une démarche. Je me rappelle fort bien, par exemple, que un jour, on avait mis Hôtel California qui dure 7 ou 8 minutes, parce que pendant ce temps, ça nous permettait d'aller boire un coup au bistrot en bas. Et puis, ouais, il y avait Hôtel California qui tournait. Voilà, c'était des péripéties comme ça, mais c'est pour dire qu'on était vraiment dans une démarche qui était... voilà, il faut bien comprendre quand même, ça paraît loin, mais enfin, il y avait des monopoles d'État qui étaient quand même sur des sujets importants en termes de le fonctionnement d'une société. Aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant, voilà. Mais c'est pas si vieux que ça. La preuve, c'est qu'on est là pour en témoigner. Et donc, ça a été vraiment une libération. Et la première libération, c'était la libération de la parole de ceux qui s'expriment. Et puis, ensuite, il y a eu la démarche, effectivement, de se dire, mais au fait, il y a des auditeurs, qu'est-ce qu'ils attendent, enfin, etc. Et ça s'est fait aussi progressivement.
Et vous, vous racontiez quoi à l'antenne? Est-ce que vous vous rappelez un peu?
Nous, on faisait des... On avait, avec, on était 6 étudiants à l'époque et on avait fait 3 tranches de 2 heures qu'on animait en binôme. Moi, j'avais le samedi de 13 à 15. On avait un invité, souvent des invités de la fac, etc., où on faisait aussi, c'était l'occasion de faire part des activités associatives qui pouvaient se passer sur le campus, etc. Donc, on était dans cette logique. Et puis, bien sûr, c'était les morceaux de musique. Et vous indiquiez tout à l'heure, on amenait nos disques. Hein, c'était encore en vinyle à l'époque. Et on les amenait nous-mêmes. Et on faisait un programme musical qui était, encore une fois, surtout pour se faire plaisir, plus que pour faire plaisir aux auditeurs. Et là aussi, il y a eu une démarche voilà, qui s'est nettement améliorée au fil des années.
Donc, Mika?
Alors moi, pour ma part, j'ai démarré dans les années 90. Donc du coup, oui, effectivement, on a amené déjà nos vinyles et après nos CD. J'ai commencé sur une radio aussi qui s'appelle toujours Chéri FM. Et on faisait les Chéri l'Allemande le soir, donc dédicace. On était très proche des auditeurs à ce moment-là. On l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Mais j'amenais beaucoup, enfin j'amenais mes compiles, mes CD. J'étais sur un Chéri FM, on va dire, associatif à l'époque. Il y avait encore des franchises, on appelle ça. Voilà. Et donc, ça se fait super bien. On avait plein d'auditeurs super sympas. On les rencontrait très souvent, comme ici d'ailleurs. Ça fait super plaisir de voir du monde. Merci d'être là. Et le début de la radio, c'était les années 80, mais aussi 90. Il y avait vraiment eu une suite avec justement les fusions, la création des groupes, comme on disait. Différents groupes, je ne vais pas forcément les citer, tout le monde les connaît. Mais donc, ça a évolué. Après, c'est devenu encore plus professionnel. Du coup, là, on a commencé à faire de la radio en pensant vraiment à l'auditeur et à des cibles précises.
Et toi, ton premier moment de radio, tu te souviens ?
Le stress, pas bien du tout, un peu mal au ventre, surtout que j'ai bluffé parce que j'ai démarré sur une radio en disant que j'avais déjà fait de la radio et c'était pas vrai du tout. Je suis arrivé en fait et j'ai regardé à la table, et j'ai regardé 10 minutes la personne qui travaillait juste avant et j'ai dit il faut absolument que je repère tout et en 10 minutes ça s'est fait et puis ça l'a fait tout seul assez rapidement. J'ai vraiment, c'est un coup de bluff hein, pour le début, histoire de fou.
François Belay.
Les débuts, donc,
les débuts, oui.
Je faisais tout, hein. J'étais le couteau suisse de service parce qu'en fait, on a appris sur le tas, comme on dit, et le tas était important effectivement à creuser, donc j'ai touché à tout. On a été très très vite soucieux d'être proche des gens quand même quand on savait qu'on n'avait pas un auditorat encore très important, évidemment, puisqu'on était dans une semi-clandestinité. Alors après, avec Radio 2, c'était différent, on était officiel, effectivement. Et là, on a voulu très vite faire une radio locale, dans le sens étymologique du terme, en étant très très proche des gens, en faisant parler les gens ce qu'on voulait. Et le rédacteur en chef de l'époque, l'époque, Gérard Cybel voulait à tout prix qu'on soit très proche des gens, que ces gens-là puissent s'exprimer au micro. Donc en fait, on avait plein d'émissions d'infos, infos sociales, culturelles, politiques, sportives, économiques, etc. Et moi, je touchais un peu à tout. Alors j'étais un fou de musique, j'étais un fou de sport, j'étais un fou de tout. Du coup, ça m'a donné un côté éclectique qui m'a servi après dans ma carrière, parce que maintenant, je suis dans l'animation d'événements, organisation d'événements, mais dans tous les domaines d'activité. Et finalement, c'était une excellente école de formation. Alors voilà, moi, j'aimais bien tout. En fait, dès qu'il y avait un micro qui traînait, j'étais prêt à le prendre. Mais pour communiquer, mutualiser un petit peu les choses, fédérer les gens aussi. Il y avait souci de fédérer les gens. Et pour une fois, on avait effectivement un média porte-parole d'un territoire. Et on s'est rendu compte que très vite, les gens sont venus. Ils étaient hyper contents. On a eu un auditoire important. Hein. Dans tous les sondages, on était toujours bien placés. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on s'adressait aux gens du cru qui eux-mêmes s'adressaient aux gens du cru. Et ça, ça a été vraiment le succès de cette radio. Puis après, elle s'est arrêtée un jour parce que financièrement parlant, on était 16 salariés, que c'était très lourd à porter, évidemment, et que la pub suivait pas, parce qu'on était sans doute plus des gens de radio que des commerciaux, quoi.
Et après, votre lien avec la radio a quand même perduré.
Bah oui, en fait, moi, c'est une vocation. À 5-6 ans, je prenais un bout de bois dans la cour de ma grand-mère et je commentais le tournoi des 5 nations à l'époque, ou le Tour de France à mon frangin, voilà, qui était mon premier auditeur. Il était difficile parce qu'il n'était pas très passionné par ce que je disais. Voilà, donc, j'ai eu un auditoire extrêmement douloureux et difficile au départ. Mais c'est formateur. Ouais, moi, j'ai continué au micro, évidemment, encore et toujours, hein, dans différents secteurs d'activité. Et maintenant, je suis plus en prise directe avec le public parce que je suis dans l'animation événementielle. Voilà, je suis pas trop dans le virtuel, moi. Le visio m'intéresse assez moyennement. J'aime bien le contact direct avec les gens. Voilà, je pense qu'on en a besoin. Effectivement, j'ai toujours un micro dans la main ou devant la bouche, quoi.
Sylviane Chen, bonsoir. Donc, vous venez de nous rejoindre. Donc, vous êtes adjointe à la mairie de Bourg-en-Bresse à la culture et aux relations internationales. Qu'est-ce que représente la radio pour vous ?
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, merci de votre invitation. Moi, je suis ravie d'être là. En plus, on est devant l'hôtel de ville, sur cette place où finalement le soleil nous fait le petit plaisir de nous accompagner ce soir. Alors, la radio, pour moi, c'est quoi ? C'est évidemment toute une partie de ma jeunesse, hein, où je regardais quasiment pas la télévision, où finalement mon accès à la culture, c'était la lecture et la radio, parce que c'est la radio, c'est un grand vecteur culturel, en tout cas culturel au sens où c'est le lieu où on partage, où on échange et où on se forge des idées, des pensées, et où surtout on acquiert des connaissances. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est culturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle que des sujets culture, bien entendu. Donc voilà, c'était toute une découverte. C'est ce qui m'a permis de découvrir énormément de musique, ça je dois bien le reconnaître, puisque la jeunesse, c'est quand même le moment où on a les oreilles grandes ouvertes à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui nous fait du bien, à tout ce qui nous balance un petit peu. Donc, découverte de la musique, découverte des émissions littéraires aussi, découverte des débats. Je crois que c'est aussi un accès qui permet à la fois d'entendre et en même temps de continuer à penser, à cheminer, peut-être parce que l'image n'est pas trop omniprésente et que du coup... ça nous permet une plus grande concentration. Donc voilà, c'était ça la radio pour moi et c'est toujours ça.
Alors Sylviane Chen, donc Radio B, ancienne radio libre, fête ses 40 ans. Qu'est-ce qu'une radio locale apporte à un territoire ?
Alors la radio locale, elle a évidemment deux fonctions principales, hein. C'est à la fois de relayer tout ce qui se passe sur le territoire, tous les événements, tous les débats, de connaître aussi le territoire. Donc je pense qu'à travers les sujets qu'elle traite, elle permet cette découverte du territoire. Et puis l'autre élément important, je crois que c'est qu'elle donne la parole aussi aux habitants du territoire, à ses institutions, aux organisations diverses et variées. Donc je pense que c'est quand même un vrai vecteur de... ça va peut-être paraître banal, mais il y a un côté cohésion aussi, cohésion du territoire, cohésion de ses habitants, le territoire au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage ensemble, quelle est notre culture commune, comment on se raconte les uns les autres, individuellement ou collectivement. Donc je pense que c'est ça aussi, hein, la radio, parce qu'encore une fois, quand il n'y a pas la caméra, je pense que globalement, tout le monde se sent beaucoup plus libre et à l'aise.
Xavier Breton, est-ce que vous vous souvenez de la première interview que vous avez donnée sur une antenne de radio ?
De radio, en tant qu'élu, ça doit remonter une vingtaine d'années maintenant. Effectivement, c'était peut-être du temps de Tropic FM à l'époque. J'imagine que ça devait être Charles Vieudrin, peut-être, qui était derrière le micro. Voilà, après, il y en a eu beaucoup depuis, mais ça remonte effectivement une vingtaine d'années.
Et quels souvenirs vous en gardez ? Quand on est politique, quand on se retrouve derrière un micro, comment ça se passe ?
C'est un exercice particulier parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a plus l'habitude de parler devant un public, devant des personnes. Et on sait que le message passe beaucoup par les gestes. Quand, alors il y a eu des pourcentages qui ont été étudiés, mais on se rend compte, vous voyez, là je bouge la main, etc. On a l'habitude de le faire et ça fait partie des moyens de faire passer un message, effectivement, l'expression corporelle. Quand on est à la radio, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus exigeant. Et je crois que ça oblige effectivement à choisir un rythme, à choisir des mots, à choisir des intonations. Voilà, il y a une exigence dans la radio qui est sûrement supérieure et qui est un excellent exercice. Et ce qui est aussi intéressant, c'est parfois de se réécouter soi-même, parce qu'en fait, on ne connaît pas sa voix. Quand on fait des exercices de training, comme on dit, d'entraînement, l'expression corporelle, finalement, on se retrouve, on voit à peu près comment on bouge. Charles Escalavoie, la voix, on a un son de sa voix qui est intérieur, qui n'est pas le même son que celui qu'on entend. Et donc, ça oblige aussi à le travailler au sens que ça soit le plus accessible possible, faire passer les messages du mieux possible. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne école de formation, effectivement, la radio, pour la transmission du message sur tous ces critères.
Un exercice sympa aussi, c'est le direct. Donc, on ne peut pas revenir en arrière, il n'y a pas de montage. Donc, j'imagine que les hommes de radio à cette table ont des souvenirs de direct qui sont peut-être plus ou moins bien passés. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes ?
Vas-y, Mika, je t'en prie.
Ah ben, ouais, très bien, ben, moi j'ai un souvenir. Il est assez terrible, en fait. C'est au moment d'envoyer les infos, je me rappelle, il était 18h, je me souviens très bien. On est presque sur la même horaire, du coup. Je lance la journaliste, c'était une chronique enregistrée à l'époque. On en parle de direct, mais là, du coup, c'était enregistré. Moi, j'étais en direct. J'envoie sa chronique, je lui dis bonjour, elle s'appelle Caroline, on va la citer. Et en fait, elle avait enregistré, mais en fait, la partie non montée. Du coup, ça part, ça commence très bien, et à un moment donné, ça dérape totalement, et je ne sais plus quoi faire, et on a l'impression qu'on est en direct, mais on ne l'est pas, en fait. Du coup, c'est à moi de rattraper les choses. Et là, c'était un moment assez intense, très stressant, et aussitôt, j'ai reçu un message de sa part qui s'excusait, mais j'ai dit là, c'était la cata, quoi. Donc ça fait partie des aléas, enfin, du direct, oui et non, mais d'une partie, justement, qui n'était pas en direct, et il aurait mieux fallu être en direct totalement.
C'est un beaucoup truc, de solitude.
Ce moment-là, c'était très long. La chronique durait une minute, pour moi, ça durait une heure dans ma tête. C'était très violent.
Ouais.
Il y a plein d'histoires comme ça.
Ouais, il y a plein d'histoires. En fait, il y a souvent l'invité aussi qui arrive un peu fier comme Bartaban, et non pas comme Bartaba ou Artaban. Donc, il arrive dans le studio en disant moi, j'ai l'habitude de parler au micro, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Non, mais vous voulez pas qu'on. Non, c'est pas peine de préparer, je vais arriver là, vous allez voir. Non, moi, je suis un habitué. Et on pose la première question, et hop, il n'y a rien en face.
C'est la cata.
Il n'y a rien en face. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a pas un poil d'air qui sort ou qui rentre. Bref, voilà, c'est la paralysie totale. Donc ça, c'est très, très embêtant pour la personne qu'on reçoit, mais pour soi-même aussi. Et puis, il y a des fois aussi le dérapage en direct. Je me souviens, une fois, on avait interviewé Jacques Dufilo, qui n'arrêtait pas de jouer avec le fil du casque, comme ça. Voilà,
c'était du filo.
C'est marrant,
parce que ça va très bien. Voilà, ouais.
C'était pas de la filo, mais c'était du filo. C'est un garçon un peu bizarre, quand même, Jacques Dufilo. Grand comédien, mais un type un peu bizarre. D'un coup, il s'est mis à pousser des cris. Des cris comme ça, voilà, bon, j'ai pas compris pourquoi, il est parti, très bien, donc ça fait partie des... On attendait,
une
interview intéressante, il est pas revenu chez nous en tout cas, mais voilà, ça fait partie des choses un peu surprenantes. On a aussi, j'en ai un aussi qui était tombé en dig-dig, dans les pommes, comme ça aussi, à l'occasion d'une interview. Voilà, c'est un comédien de théâtre, type de Grenoble, je sais plus son nom d'ailleurs, et puis par charité, je vais pas le donner, même si je m'en souvenais. Voilà, des surprises comme ça, on en a effectivement, puis alors des fois, on a des réponses qu'on n'attend pas. Je me souviens très bien à l'époque où... les Coco Girls donc, de Colaro étaient venues aussi. Elles étaient en bisbille avec Stéphane Colaro. Elles avaient annoncé en direct sur l'antenne de Radio 2 qu'elles quittaient Stéphane. Et Stéphane n'était pas au courant, donc ça avait été répété. Il avait appelé pendant l'émission pour les insulter, etc. Enfin bref, ça fait des souvenirs.
C'est violent, ça.
Oui, c'est assez violent, ouais, c'est vrai. Enfin voilà, ce genre de souvenirs qu'on peut vivre quand on est effectivement dans un plein direct. Puis voilà, donc il y a quelques moments magiques aussi. Je me souviens l'abbé Pierre, une fois qu'il était venu pour l'anniversaire de la communauté Emmaüs de Bourg et Servas, il était venu dans le studio et tout d'un coup, il parlait et il y a eu une panne totale de lumière, mais vraiment plus de lumière. Par contre, le son passait toujours. Et on a fait une interview d'une demi-heure avec l'abbé Pierre. C'était lumineux dans ce studio sombre et c'était assez, assez étonnant. Voilà, il y a des moments comme ça de grâce un peu, quoi, qu'on arrive à retrouver, dont on se souvient forcément.
Justement, dans ces moments de grâce, Mika, est-ce que tu as vécu un moment magique
Magique ou...
Magique, positif, t'a marqué.
Positif, tous les jours, on a des moments positifs en radio. Après, on a différents soucis. Donc, finalement, le direct, mais il y a aussi le retard Et le retard, c'est très violent, le retard. Le jeudi, nous avions une belle soirée étudiante qui s'est très bien passée. Ça a fini très, très tard. Et donc, le lendemain, j'étais à l'antenne à partir de 16h. J'aurais dû être là à partir de 16h. Je viens préparer l'émission dans la matinée à la radio. Et je me dis, tiens, je vais rentrer me reposer un petit peu parce que bon, il y avait la soirée d'hier, forcément. Et je m'endors, mais totalement. C'est-à-dire que je me réveille, il est 16h45. Et là, je regarde et je me dis, mais on est quel jour? Samedi? Ah oui, samedi, je ne travaille pas, tout va bien. Et je vois des messages arriver. Et je me dis, ah mais non, on est vendredi. Et là, je suis parti à la radio en courant. Je n'ai jamais couru aussi vite dans la ville, c'était la folie. Et je peux vous dire que là, j'étais très très mal. Bon, ça s'est bien terminé, mais l'angoisse, le cœur, il est parti dans tous les sens, hein, je peux vous dire. Hausse de tension directe. C'était violent.
Mais c'est le bon stress aussi, c'est le mauvais, oui. Le bon stress. On a besoin de ça, en fait, on a besoin d'un direct. Moi, je trouve qu'on a besoin de ça pour exalter un peu la passion qu'on a et puis pour retrouver vraiment le sel de la vie, la vraie vie, quoi.
Alors, une dernière question avant de terminer donc, cette première partie. Quelle place a la radio aujourd'hui dans vos vies, Xavier Breton ?
C'est une place quotidienne pour écouter les informations, parce que pour moi, ça, dès que j'ai la possibilité en voiture, c'est effectivement d'écouter soit une radio nationale, soit une radio locale pour avoir les infos. C'est quelque chose qui reste important. Et puis, voilà, avant, j'avais des émissions un petit peu. Je me souviens, pendant des années, j'écoutais Le Masque et la Plume, qui était une grande émission du dimanche soir sur... à la fois le cinéma, de temps en temps le théâtre, etc. Bon, on a moins de grandes émissions comme ça, mais ça peut m'arriver également, surtout en voiture, effectivement, de prendre le temps. Et ça, je crois que c'est aussi important dans la radio, c'est cette notion de temps qu'on a sûrement plus qu'à la télévision. Je ne suis absolument pas un habitué des plateaux télévision, style BFM, etc., mais ça m'est arrivé quelquefois, on est vraiment comprimé, enfin vraiment mis sous pression. Je trouve que la radio, à l'image de cette émission, mais à l'image des débats aussi qui sont organisés, il y a quand même beaucoup plus cette écoute et cette possibilité de développer ce qu'on a à dire. Et je trouve qu'en termes d'information, c'est vraiment un outil très précieux.
Mika ?
Ah, moi, la radio, dans ma vie, c'est numéro un. Si je mange radio, je respire radio, je me douche radio. C'est vrai que je me douche en écoutant la radio, en plus, c'est vrai. Mais vraiment, ça reste numéro un depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire la radio, en visitant une radio en fait. J'ai dit je ferai ça ou rien. Mes parents ont eu très peur. Ils se sont dit oulala, ça va être violent. C'est vraiment... Donc aujourd'hui c'est vraiment une place numéro un. J'envisage pas d'arrêter la radio un jour. Je pense rester à la radio si je peux toute ma vie. Mourir devant un micro, pourquoi pas. Je sais pas si ça arrive souvent. Mais ouais, vraiment je respire radio tous les jours, quoi. C'est des formations professionnelles. Je rentre dans un magasin, je regarde quelle radio ils écoutent, quoi. Premier truc, c'est tout le temps. Et même dans les voitures, il m'arrive parfois dans Bourg de croiser une voiture et de regarder dans la voiture pour voir ce qu'ils écoutent. Ça va loin, hein, attention. Ça va très très loin.
Alors, Sylviane Chen.
Oui, alors la radio pour moi, c'est... Alors, c'est pas... Comment dire, je ne suis pas addict à ce point-là. Hein, c'est beaucoup plus modéré, mais je crois que ça reste d'abord et avant tout vraiment un petit moment privilégié. Un petit moment où finalement, on peut avoir une activité. Hein, alors, on peut conduire ou on peut même faire la cuisine. Mais ça n'empêche pas que du coup, notre attention, elle peut être totale et entière à ce qui se dit à la radio. Donc, ça reste toujours un moment privilégié. Pour moi, c'est un moment de plus grande concentration, peut-être que de regarder des images ou d'être sur les réseaux sociaux. Je m'éparpille moins, j'arrive à rester plus concentrée. Donc, je trouve que voilà, les voix sont très importantes. Hein. Moi, j'adore les voix. Je suis sensible aux voix. Quand je rencontre les gens, leur voix, j'allais dire leur voix me parle, c'est évident, mais la voix a un effet. La voix a un effet sur le fait que la personne puisse nous capter, puisse nous paraître sincère, puisse nous charmer. La voix dit beaucoup de choses, donc je trouve que la voix, c'est important. C'est aussi beaucoup ce qui me plaît dans le chant, évidemment, de la musique, mais je trouve que... La voix, en général, elle a plus de sincérité parfois que l'image, enfin, pour moi en tout cas. Donc les voix me touchent et la manière dont les gens me parlent et dont je leur parle aussi me paraissent extrêmement importants. Donc voilà, je suis un petit peu sous le charme et ça fait partie des moments agréables.
Même question, je suppose. En
exactement.
Fait, hein. Bah, la radio, ouais, c'est ma compagne quoi, depuis tout petit, en fait. Hein. Voilà, j'ai une compagne officielle, ma chère et tendre épouse. 40 ans de mariage cette année avec ma petite Marie, quand même. Oui, ça s'arrose. Hein, voilà.
Exactement. Comme, comme Radio B.
Ouais, ouais, voilà, exactement. Vous voyez, comme quoi, il y a des similitudes quand même. Non, très sincèrement, la radio, de toute façon, c'est le seul média, médium ou média, on peut dire les deux, je crois, qui s'exporte dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. C'est le seul média qu'on peut emmener partout. Voilà, il y en a qui ont essayé de regarder la télé en voiture. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait Las Palès. Voilà, c'est vrai que la radio, ça s'emmène partout. Voilà, c'est une compagne permanente. Et moi, je suis très, très consommateur de radio. Alors, de radio d'info, beaucoup. Radio musique aussi. Pas mal de radio locale où que j'aille. Parce que je trouve que c'est important. Ça permet de prendre la température. Et c'est pas du pipeau, hein, c'est sincère. C'est pas de la démagogie, parce que je suis une vraie radio locale que je dis ça. Mais vraiment, ça permet de prendre contact avec un territoire. Quand vous êtes sur un territoire dans lequel vous allez intervenir comme animateur, par exemple, sur une manifestation, quelle qu'elle soit, je trouve que ça permet, le journal du coin, le quotidien régional et la radio du coin, ça permet de prendre un peu l'ambiance et l'atmosphère. Je trouve que c'est très très important. Puis alors, moi je suis très sensible aussi à la voix, et je trouve que quand il y a un test tout bête, fermer les yeux et écouter la télé, c'est affligeant de bêtises souvent. C'est d'une médiocrité crasse, mais c'est incroyable quoi. Ils sont d'une telle bêtise que c'est un repoussoir total. Fermez les yeux en écoutant la radio, il n'y a pas besoin, parce qu'on ne voit rien. Donc, voilà. Et je trouve ça très très bien. Alors je ne dis pas que tous les gens de télé sont des ratés, hein, mais tous les ratés y sont. Par contre, à la radio, il faut un certain talent quand même, je pense, pour faire de la radio. Voilà, c'est mon sentiment et je le partage.
François Belay, Xavier Breton, Sylviane Chen et Mika, merci.
Et on écoute Dans ta radio de M. Et juste après, on accueille des jeunes qui ont pu prendre le micro grâce à Radio B.
Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Je passe dans ta radio.
Radio B, 90 FM, 40 ans, des bonnes ondes et pas une seule ride.
Vous écoutez Radio B sur le 90 FM et en direct du parvis de l'Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse. Une émission spéciale pour les 40 ans de la radio.
Et avec nous pour cette deuxième partie d'émission, Camille Grangeard, bonjour.
Bonjour.
Alors Camille, on va se tutoyer car on a travaillé ensemble. Camille, tu étais en service civique à Radio B en 2020 et aujourd'hui tu es journaliste à La Voix de l'Ain. Jean-Christophe Taillandier, bonjour.
Bonsoir.
Alors vous êtes professeur au lycée agricole Les Sardières à Bourg-en-Bresse et vous êtes venu accompagner donc d'élèves des Sardières. Donc il y a
Léane,
Lilou
et Alexandre.
Bonsoir à tous les trois.
Donc je m'adresse aux plus jeunes. Vous avez tous en commun d'être passés sur les ondes de Radio B. Qu'est-ce que vous connaissiez de la radio avant cette expérience, Camille?
De la radio en général ou...
De la radio en général, ouais. Du média radio.
Ah, moi, c'était très lié à ma mère qui écoutait Prof et qui écoutait forcément France Inter. Donc tous les matins et le soir en revenant du lycée, c'était France Inter à fond, les infos. Donc c'est surtout par les infos que j'ai connu la radio.
Alexandre?
J'écoutais dans la voiture quand j'étais petit, depuis mon plus jeune âge, avec mes parents. Et c'était, là, vraiment, le direct, c'est vraiment une nouvelle expérience. On n'est pas auditeur, on est vraiment en direct. Là.
Et alors, ça fait quoi, parler en direct?
Eh bien, j'ai dû me préparer avant. Voilà. Mais là, c'est exceptionnel d'être là avec vous. C'est avec honneur, un grand plaisir. Un grand plaisir.
Merci, Alexandre. Léane?
Moi, après la radio, personnellement, j'étais dans la voiture, du coup, beaucoup avec mes parents, en rentrant de l'école, en allant les matins à l'école.
Plutôt de la musique?
Oui, plutôt de la musique. Ouais, plutôt de la musique. Voilà.
Et Lilou?
Moi aussi, c'est plutôt la musique le matin, en voiture.
Alors, Jean-Christophe, vous avez monté des projets avec Radio B. Pourquoi vous avez choisi ce média pour faire travailler vos élèves?
Eh bien, en fait, parce que déjà, moi, j'ai toujours écouté la radio, en fait. Comme les prédécesseurs le disaient, moi, j'ai un peu une passion pour ce média. Je trouve que c'est un média assez inégalable dans le rapport qu'on peut avoir d'intimité avec. En plus, je déteste assez la télévision, globalement. Donc, ça s'est imposé assez vite. Et puis, je trouvais que... C'est un média qui fait assez le lien entre les médias traditionnels, puisque c'est un média classique, et puis la jeunesse, en fait. C'est-à-dire que la presse, c'est compliqué d'intéresser les jeunes à la presse. La télé, c'est inaccessible. Et du coup, la radio, ça permet de faire ce lien entre les générations, en fait. Voilà, je trouve que c'est...
Voilà. Et donc, on peut rappeler aussi un petit peu le principe des chroniques qu'ils ont pu réaliser sur notre antenne, puisque c'était autour donc de l'histoire. Racontez-nous.
Oui, alors en fait, j'ai essayé de regarder un petit peu. Ça doit faire plus de 5 ans, je crois, maintenant qu'on fait des projets ensemble avec Radio B. Voilà. Y a eu plusieurs formes. Il y a eu des formes où on faisait un peu des demi-journées radio avec des thèmes, des ateliers, des formes assez complètes, parce que moi, en tant que prof d'éducation socioculturelle, je suis chargé de l'éducation aux médias aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé ces projets. Et puis après, on est passé plus sur des projets de chronique. Et on voulait travailler avec ma collègue d'histoire, assez vite, on s'est orienté vers des thèmes historiques. Mais moi, mon intérêt, les thèmes historiques, bien sûr, aussi m'intéressent, mais c'était surtout de les confronter à la réalité d'un média. C'est-à-dire que j'en parle dans mes cours, on parle un peu de ce que c'est un média, les enjeux qu'il y a, l'information, essayer de développer aussi un peu un esprit critique. Mais je trouve qu'être confronté à la concrétisation d'une émission, à écrire un texte, à donner ses sources, enfin, être confronté un peu... au métier de journaliste, même si c'est en réel, en vrai, c'est une expérience irremplaçable.
Alors je vais m'adresser à vous trois. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ces chroniques radio à Radio B? Léane?
Personnellement, j'étais plutôt contente de faire ça, parce que c'est une expérience que du coup j'ai jamais vécue encore, que j'avais jamais vécue auparavant. Et ça m'intéressait beaucoup en soi. Même si je ne me suis jamais vraiment intéressée au monde de la radio et à faire des chroniques ou autre, je trouvais ça vraiment super intéressant. Parce que du coup, on se met à la place de ceux qu'on entend d'habitude, etc. Du coup, c'est différent. C'est un petit monde à découvrir, je pense.
Alexandre?
Moi, c'est...
Il y a un petit peu de bruit. Il y a
un petit peu de bruit.
Bruit.
C'est les bouchons burgiens. Voilà, c'est l'heure des bouchons burgiens.
Voilà, ça, c'est l'heure de pointe. Bah, moi, donc, même le fait de travailler sur une chronique, déjà, c'était un
sur
un
le travail, camp de...
Sur le camp de Drancy.
De Drancy,
voilà, le
oui.
camp de transit de Juifs, de Drancy. Et de plus de ça, de réaliser une chronique et de l'enregistrer à la radio, je pense que c'était... déjà, on a la passion déjà de... Moi, j'adore faire partager aux gens ce que je fais. Et là, c'était... même avec tous mes camarades de classe, on était tous contents et ravis de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on fait maintenant et de ce qu'on a fait jusqu'à présent et même maintenant. C'était... Voilà.
Lilou, un petit mot.
Alors, c'était super cool. On a tous bien aimé, je pense.
Peut-être de rappeler la chronique sur quoi elle portait.
C'était sur le Mont Valérien. Franchement, c'était trop bien. On a tous bien aimé. Et puis,
vous avez fait des interviews.
Tout à fait, ouais. Et ça permet de se surpasser aussi.
Donc Radio B, ce n'est pas que des émissions d'information, de musique, de sport, c'est aussi des ateliers encadrés par les salariés. Radio B est un pôle référence d'éducation aux médias et à l'information. Il est même labellisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'an dernier, par exemple, la radio a animé une vingtaine de projets, des ateliers radio comme des séances d'éducation aux médias. Et tous les publics ont été touchés, personnes en réinsertion, personnes âgées, enfants, collégiens, lycéens et même des détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Ces ateliers en prison ont lieu depuis 2017 et d'ailleurs on écoute un des détenus qui a participé à une émission en 2020 sur la cuisine.
Radio B, les bonnes ondes. Notre émission est consacrée à la nourriture. Entre réflexions philosophiques, informations pour votre santé, conseils nutritionnels et recettes de cuisine, vous saurez tout sur ce que vous pouvez manger.
Radio B, les bonnes ondes.
Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahima. Actuellement, je suis étudiant en dernière année de bachelor pour devenir chef de projet informatique. Lorsque j'ai connu Radio B, je me trouvais au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Je suivais différents cours, pour la plupart très intéressants, qui me permettaient, ainsi qu'à d'autres, de couper quelques instants avec la prison. Dès lors que j'ai eu connaissance qu'il y avait un atelier radio, je me suis immédiatement inscrit. C'était l'occasion de découvrir les coulisses d'une radio. Merci à elle de nous avoir permis de nous mettre dans la peau d'un animateur radio et de nous avoir initiés à la radio. Merci encore.
C'était un ancien détenu du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Merci à lui pour son témoignage.
C'est quoi la banlieue ? La dernière émission réalisée par des détenus du centre pénitentiaire de Bourg a été diffusée la semaine dernière. Les détenus ont fait un état des lieux de l'histoire des banlieues. À leur micro, le rapport Zoxy, membre des Sages-Poètes de la rue. Une émission à réécouter ou télécharger sur radio-b.fr dans la rubrique « L'info, le magazine ».
Et dans quelques instants, on parle des premiers moments de radio de nos invités. D'ailleurs, dans le public, si vous avez des anecdotes à partager, venez à notre micro en fin d'émission. Tout de suite, un petit medley des interventions de Radio B auprès du grand public.
Je m'appelle Adam, j'ai 12 ans et demi.
Je m'appelle Yona et j'ai 10 ans.
Je m'appelle Samuel et j'ai 14 ans et bientôt 15.
Je m'appelle Maxence et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Chiara et j'ai 10 ans.
Les enfants du centre social de l'Europe, au revoir.
Une émission
Radio B.
90 FM.
Bonjour à toutes et à tous, il est 8h. Dans quelques secondes, l'actualité du jour et ensuite la météo.
Radio B, les bonnes ondes.
Bonjour, je suis Lilou.
Bonjour, moi c'est Léane. Nous allons vous parler du Mont Valérien.
Bonjour, je m'appelle Denis.
Bonjour, je m'appelle Evan.
On est sur Radio B pour vous parler de deux responsables du camp d'internement de Drancy.
Bonjour, je m'appelle Alexandre.
Bonjour, je m'appelle Nathan.
Nous allons vous présenter le camp de Drancy. Dès la défaite française en 1940, l'ensemble immobilier va servir de camp de rassemblement, puis d'internement des Juifs. Nous avons rencontré Alex Quéré, coordinatrice des activités pédagogiques au mémorial de Drancy.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Corentin. Bonjour Zoé.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de Frida Kahlo. Vous la connaissez peut-être par ses œuvres ou par son monosourcil si particulier, mais dans cette chronique nous allons vous en apprendre plus sur elle.
Juste des gens normaux, une émission réalisée avec des patients de l'hôpital de jour du Bastion à Bourg-en-Bresse, une structure du centre psychothérapique de l'Ain.
Je m'appelle Pascal, j'ai 54 ans. Je souffre d'une dépression chronique depuis l'âge de 30 ans, sans raison particulière. J'ai fait beaucoup de marches, je m'entoure de gens bienveillants. Même si je suis suivi, je reste fragile. Je suis un peu comme un funambule sur son fil. À tout moment, je peux tomber.
Je m'appelle Hervé Dufour.
Je m'appelle Ilson.
Je m'appelle Maëba, j'ai 8 ans.
Je m'appelle Wenji.
J'ai 90 ans, je suis comblée par une famille de 3 enfants et 11 arrière-petits d'enfants que j'adore.
Est-ce que à l'époque, vous avez la télévision ?
Évidemment, quand je suis né, il n'y avait pas de télévision, hein. On n'avait que la radio. J'aime toujours regarder les épreuves cyclistes, le Tour de France. Et on écoutait, mon père aimait bien ça, et on écoutait les arrivées commentées à la radio.
Et vous avez pu entendre plusieurs extraits des émissions réalisées en atelier par l'équipe de Radio B. Et les personnes qui sont ici présentes ont participé, la matinale de Camille et les chroniques des élèves du lycée des Sardières. Donc vous pouvez écouter toutes ces émissions sur notre site www.radio-b.fr.
Alors, qu'est-ce que ça fait quand on s'entend pour la première fois, Camille ?
C'est jamais très agréable, hein. C'est le pire moment je crois au début, vraiment. C'est les souvenirs, si vous demandez les souvenirs qu'on a des premiers moments, se réécouter, c'était... pas très agréable. Et sinon, le premier moment à l'antenne en direct, en fait, j'en ai pas eu beaucoup pour mon service civique, mais c'était avec vous et toute l'équipe dans l'émission de Michel. Et c'était très sympa comme moment, c'était très ouvert, on pouvait parler de plein de choses.
Qu'est-ce qui te plaît dans la radio ? Pourquoi plus ce média qu'un autre, pour commencer ?
Ce qui est sympa, c'est de pouvoir tendre le micro et de prendre des sons d'ambiance. Ça, je trouve que c'est vraiment la force de la radio, d'entendre aussi la voix des gens, mais avec leur intonation, tout ça. Et moi, c'est pas tant le côté parler, moi, dans le micro, c'est plutôt le tendre, c'est plus ça qui me plaît. Ouais.
Alors, et pour vous, donc, qui avez participé aux chroniques, Léa, Lilou et Alexandre, qu'est-ce que ça fait quand on s'entend pour la première fois, Léane ?
Ça fait très bizarre, parce que on n'a pas l'habitude, quand on n'a jamais fait de radio auparavant, ou même pratiqué des choses dans ce genre. Donc, faut s'habituer un petit peu. Lilou ?
Alors déjà, on n'a pas du tout la même voix qu'on le pense. Sinon, c'est... Oui.
C'est une expérience.
C'est une expérience, c'est ça.
Alexandre.
Et moi, du même avis, pareil, une nouvelle expérience. Surtout que j'aime pas trop écouter ma voix. Alors, mais quand j'écoutais ma chronique, je trouvais que j'ai aimé entendre ma voix. Puis, je sais pas, ça m'a... Parce qu'on ne s'entend pas parler, comme a dit Léane. Et moi, quand je lisais, j'étais dans le truc. Mais ça, en fait, notre voix, elle porte sur ce qu'on lit. Et ça, quand on s'écoute, oui, c'est vrai que ça...
Il y a une façon de poser sa voix, mais c'est vrai que quand on croit en ce qu'on est en train de lire, forcément, le message passe très bien.
Ouais.
Et ça, vous l'avez très bien fait tous les trois.
Est-ce que vous retenez quelque chose de ces expériences en radio ? Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous-même, Camille ?
Oula, sur moi-même, c'est pas évident.
T'as donné envie de continuer à faire de la radio ?
Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai que j'étais pas partie dans l'idée que je voulais faire du journalisme pour la radio. C'était plus presse écrite et ça m'a donné envie de... Ouais, c'est là que j'ai découvert le travail du son. Donc ça m'a appris ça et ouais, c'est déjà pas mal.
Alexandre,
Moi...
qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite, par exemple, de tes études, pour ta vie de tous les jours ?
Bien, sur la confiance en soi, parce qu'au départ, j'ai personne qui n'avait pas trop confiance en soi. Et là, quand j'ai réalisé ma chronique, ça m'a entraîné à... Donc, je pourrais peut-être recommencer et faire la même chose, et je serais plus à l'aise. Voilà.
Lilou ?
Ça aide à se surpasser aussi.
D'accord. Léane ?
Personnellement, ça, par rapport à moi-même, j'ai pas vraiment découvert grand-chose, mais c'est vrai que ça fait toujours quelque chose, parce que quand on l'a jamais fait, on découvre toujours le milieu, ce que ça fait de parler derrière un micro, ce que ça fait de s'entendre, de réaliser une chronique. C'est quelque chose d'intéressant et je pense que c'est important de le savoir quand même parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, quoi.
Eh bien, Camille Grangeard, Jean-Christophe Taillandier, Léane, Lilou et Alexandre, élèves au lycée des Sardières, merci.
Et donc, tout le public, si vous avez des anecdotes à partager avec nous sur vos expériences radio, Je vois quelques personnes qui ont des choses à raconter. Elles vont venir s'installer autour de la table. Donc merci à vous, vous pouvez lâcher les casques.
Merci.
Donc on accueille un ancien d'une radio libre qui a eu plusieurs expériences. On a aussi Quentin de France Nature Environnement qui a fait des chroniques. Lucas, un ancien bénévole de Radio E qui nous a déjà quittés malheureusement pour ses études.
Le jeune de la radio.
Le jeune de la radio. Donc on commence à honneur aux plus âgés. Hein,
ah oui, 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 tout à fait.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Un vieillard presque. Non, bon, je m'appelle Roland Asgen. Pendant plus de une vingtaine d'années, j'ai animé les émissions de sport sur l'ancêtre de Radio B qui s'appelait Radio Tropique, qui était présidé à l'époque par Pierre Guénard et après Charles Vieudrin. Et je faisais une émission tous les lundis soirs qui s'appelait Le sport pour tous le lundi. Et également une émission le dimanche matin qui s'appelait Le Café des Sports. Voilà. Alors, j'ai découvert la radio un petit peu bizarrement parce que je suis un passionné de musique, de jazz et de blues. Et j'écoutais Roger Picard tous les samedis après-midi. Et un jour, j'ai téléphoné à la radio. Et j'ai eu Pierre Guénard, comme ça, par hasard, qui m'a dit « Oh, mais tu vas au match de basket, tu vas au rugby, tout ça. Tu pourrais pas venir faire une émission de sport à la radio ?» Alors j'ai dit oui, d'accord, donc j'ai fait ces émissions-là pendant pratiquement de 1985 à 2001. Et après, j'ai cessé toute activité parce que je me suis consacré à la presse écrite. J'ai passé quand même 3 ans à Radio 2, puisque c'est moi qui a été l'héritier du poste laissé vacant par François Bellet aux émissions de sport. Donc j'ai été à Radio 2 pendant 3 ans. Avec, bien sûr, Mocoset à l'époque, et qui a, à cette époque-là, vendu quelques temps après à Énergie. Voilà.
Donc Quentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Ouais, je m'appelle Quentin Chaming, je suis chargé de mission biodiversité pour France Nature Environnement. Moi, j'agis beaucoup sur la faune, donc je suis naturaliste aussi à côté.
Et donc, quel est ton lien avec Radio B?
Alors moi, je suis arrivé en service civique en 2018 à la FRAPNA à l'époque, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant FNA. Et Olivier, notre chargé de com, m'avait proposé, il tenait une émission qui s'appelait La Chronique du Hérisson. Il m'a proposé de faire des émissions sur les mares, qui était mon sujet d'abord. Donc j'ai fait une première émission sur les mares. Stress complet, horrible, comme l'ont dit les autres juste avant, horrible d'entendre sa voix, de tout ça. Et après, j'ai été resollicité pour d'autres émissions avec des enfants des écoles de Bourg, tout ça. Et du coup, je suis revenu volontiers plusieurs fois. Et là, ça fait un petit moment que je n'ai pas pu venir à la radio, donc c'était un peu l'occasion.
Je suis content de reprendre le micro, quand même.
Et puis, je suis content aussi parce qu'on m'avait dit de ne pas faire trop de promos, mais...
Vas-y, fais ta promo.
On est conscrit France Nature Environnement 1 avec Radio B, puisque nous, cette année, on fête nos 50 ans et vous, vos 40 ans. Donc voilà, content de pouvoir être là aussi.
Et donc, il y a quoi ce week-end? Continue.
Ah non, c'est pas ce week-end, ça c'est le 15 octobre. Le 15 octobre, on fait nos 50 ans à l'espace du lac à Bourg-en-Bresse.
C'est placé.
C'est placé.
Et donc, le petit jeune de la radio qui nous quitte malheureusement, mais Lucas.
Pour continuer dans le monde de la radio.
Oui, qui continue.
Nous expliquer.
Raconte-nous un peu comment t'es rentré à Radio B.
Eh bien, à Radio B, j'y suis rentré par mon stage de 3e, un stage d'observation. Radio B qui a bien voulu m'accueillir au sein de sa maison. C'était un stage qui m'a vraiment donné la passion pour la radio. J'ai découvert complètement l'envers du décor. En fait, ça m'a fait complètement rêver. Ça m'a persuadé de la passion pour l'animation. En plus, il y avait une équipe vraiment incroyable qui m'a accueilli. C'était juste génial. Et ça m'a permis, les années d'après, de pouvoir animer ma propre émission. Donc au début, c'était pendant 2 ans une petite émission de 15 minutes, une chronique.
Sur l'actualité en Berry-en-Bugey.
C'est ça, une fois par mois. Et ensuite, ça a été la dernière année, une émission de 2 heures. C'était une libre antenne et là, c'était incroyable parce que Radio B m'ont laissé beaucoup, beaucoup de liberté. Et bon, on a vécu des trucs assez dingues quand même.
Un petit souvenir comme ça qui te revient?
On en a plein. Alors bien sûr, nous quand on disait soirée pyjama, c'était pas une métaphore, on faisait une vraie soirée
en pyjama.
Alors, on n'était pas en pyjama par contre, mais c'est vrai qu'on faisait un énorme truc. Une fois, on a invité le Chill Club, une boîte de nuit à Bourg-en-Bresse, Et ils ont fait un mix, donc on avait installé une table de mixage, il y avait des machines à fumer, des éclairages, et c'était devenu une boîte de nuit, quoi, la Radio B. Enfin, c'était des expériences dingues.
Puis ça reste de bons souvenirs.
Ah bah, bien sûr, des bons souvenirs, la possibilité d'avoir un partenariat avec les Triplettes Social Club, donc on a fait des émissions en public, c'était fou.
Et donc tout ça pour aujourd'hui t'amener, tu vas où là ?
Et bah maintenant je vais dans une école d'animation radio, je vais faire un BTS en 2 ans sur Paris et du coup je vais me former à mon métier de rêve et donc là je vais sûrement avoir bientôt un stage dans une radio du groupe Radio France, donc c'est franchement je pense je peux dire un grand merci à Radio B, hein. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu notamment rentrer dans cette école, c'est vraiment dingue. Merci beaucoup. Merci à tous.
On souhaite plein de bonheur pour la suite à la radio. Donc.
Merci.
Oui. Attends, une petite anecdote.
Allez, une petite anecdote.
Allez,
rapide.
Voilà. Donc, je suis allé une fois pour un reportage d'un match de basket de la JL Bourg à Reims. Et dans la salle, je pense que je devais casser les pieds à certains spectateurs. On a débranché l'appareil. Hein, on m'a débranché et j'ai continué à commenter tout au long du match sans qu'on m'entende une seule seconde à Bourg-en-Bresse. Voilà, c'était très gentil. Et puis, une deuxième anecdote, une course de vélo à Cisbolozon qui s'appelait le Grand Prix de Grand Coran. Et là, donc, c'était un samedi après-midi, j'ai rencontré des copains et je suis allé au bistrot. Hein, et avec des copains, on a un peu arrosé l'affaire. La course de vélo a eu lieu. Les cyclistes sont passés devant moi. Pierre Guénard était à la réalisation de l'émission. Il est resté jusqu'à 6h30 le soir, de 2h de l'après-midi à 4h. Et je n'ai jamais fait le reportage. Voilà. Donc, c'est des petites anecdotes. Et puis, je vais vous dire quand même qu'on a reçu quand même dans vos studios de très grands champions. Hein, parce que tous les lundis soirs, j'invitais quelqu'un. J'ai invité Corinne Yogret. J'ai invité Stéphane Diagana. J'ai invité Daniel Herrero et bon, je garde de très bons souvenirs de ces émissions de radio. Voilà.
Bah merci beaucoup encore à tous les trois pour vos témoignages. À vous les Burgiens, spécial 40 ans de Radio B, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Merci aux équipes de la mairie de Bourg-en-Bresse pour l'organisation et aussi à Jimmy à la technique et à Raymond à la régie à Radio B.
Et on se retrouve lundi prochain, 18h sur le 90FM et radio-b.fr. Vous entendrez un pompier d'Oyonnax mobilisé sur les feux de forêt en Gironde et on vous emmènera aussi au domaine des saveurs Les Planons pour un atelier cuisine zéro déchet.
Mais avant ça, on vous donne rendez-vous ce samedi 24 septembre pour la soirée anniversaire des 40 ans de Radio B.
Et ça commence à 19h avec une émission musicale en extérieur avec Rimé, Lounel et Trumpets of Cautiousness. C'est ouvert à tous et c'est gratuit.
Et à 20h30, Courant d'air sera sur la scène de la salle burgienne. Réservez vos places sur la-tannerie.com.
Belle soirée sur Radio B.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.